Le marathon des mots présente Yves Charnet, le libraire de Gambetta, épisode 5. Ombre. J'ai appris que vous persévériez dans votre quête. Jean-Paul Archi, au téléphone. C'est un ancien collaborateur d'Éric Losfeld au Terrain Vague, puis de François Maspero à La Joie de lire. Le jeune Torel l'avait furtivement croisé en 1972. Jean-Paul Archi venait d'ouvrir une petite librairie, rue Gambetta, presque rien. Déjà tout. Deux pièces. L'utopie chevillée au livre. L'homme du petit bureau continuait son bonhomme de chemin, rencontre au hasard du dédale un jour cet Henri Causse, chez minuit. Un autre, Jérôme Lindon, en personne. L'homme aux lunettes rondes et à la démarche claudiquante n'oubliera plus jamais ce regard. Celui de l'éditeur aux deux Nobel. N'en revient pas d'être encouragé par le type qui aura publié Malone meurt en 1951. 241 exemplaires vendus la première année. C'est une certaine idée de l'édition. Jérôme Lindon. Il apprend au jeune Torel cette façon de faire de la résistance en faisant du commerce. Le respect de l'élève pour ce maître est infini, son admiration absolue. Je ne téléphone pour ainsi dire jamais à Christian ou presque. Je déteste ce moyen de communication autant qu'il l'adore. Et vice-versa pour Facebook. Nous comparons nos addictions, comme d'autres leurs blessures. Je me souviens d'avoir appelé mon ami, le 9 avril 2001, pour la mort de Jérôme Lindon. Il y avait peu de mots dans sa voix blanche, sa voix d'outre-tombe. Il venait de perdre un père symbolique. Donc, Jean-Paul Archi cherche un associé pour agrandir sa petite librairie toulousaine. Pourquoi s'est-il souvenu du boiteux aux lunettes rondes, de ce faux Maxime Le Forestier au milieu des cartons de bouquins? Je tiens à la disposition du lecteur soupçonneux la carte d'identité de mon motif au milieu des années 70, avec sa tête de terroriste hirsute de retour de Katmandou. Il n'y a pas d'historien de la chance, pas de chroniqueur du hasard objectif. La quête avait provisoirement conduit l'ancien élève de l'INSA du côté de Rouen, librairie L'Armitière. C'est là qu'il reçoit le coup de fil, Jean-Paul Archi, Toulouse. Au moment de cet appel, la jeunesse de l'homme peinait à passer un cap, celui des 25 ans, ça piétinait un peu, des longueurs dans le roman d'apprentissage. Ce sera le retour à la case Toulouse, pour toujours. Il s'amuse bien, là-haut, les petits dieux espiègles, avec les fils de nos vies tout emmêlés. Il joue au dé, sur le comptoir de nos élucubrations. Ce sera donc Paul Riquet, plutôt que Jeanne d'Arc. Je n'ai jamais oublié que mon libraire préféré a d'abord eu une formation d'ingénieur, Calvin chez Balzac. Christian Torel va bâtir un empire de papier. Il va le faire obstinément, discrètement, totalement. Il va se confondre avec son œuvre, devenir un homme librairie. Et ça commence pour de bon le 1er janvier 1978. L'embauche chez Archi. Les catalogues par cœur, les paquets déballés, l'histoire de l'édition révisée le soir, des journées entières entre les tables, les rayons, les murs d'une minuscule librairie, les catalogues par cœur. L'été 1979, 8 ans après la sortie de l'hôpital, Jean-Paul laisse les clés à Christian, à Martine et à Christian. C'est une histoire de couple, un projet de vie partagé. Ces deux-là appelleront même leur fils Roman. Don Quichotte et les bilans comptables. On ne plaisante pas avec l'intime chez les Torel. Je ne fais donc que citer ici le prénom de cette femme discrète sans laquelle l'aventure d'Ombre Blanche n'aurait tout simplement pas eu lieu. Christian et le jardin des secrets. Il va falloir, à partir de cet appel de Jean-Paul Archi, marcher droit, marcher tout seul. Il va falloir s'arrimer entre vents et marées. Et celui qui va s'appeler chaque année davantage Torel marchera pendant 40 ans. Quand je débarque en octobre 1996, les jeux sont faits depuis longtemps, on dit Ombre, pour désigner son empire au cœur de la ville rose. Il y a Mola à Bordeaux, Sorens à Montpellier, Ombre à Toulouse. C'était prédestiné pour accueillir la romancière des Enténébrés, avec un modérateur assez saturnien. S'il y a bien un mot qui ne me va pas, modérateur. Je préfère passeur ou comploteur. Ça relève de la série noire, du roman d'espionnage. Ce sont des activités louches, des trafics en contrebande. Nous sommes d'un autre lieu, d'une autre nuit. Ce ne sont pas des métiers. Libraire, écrivain. Ce sont d'autres façons de construire des châteaux de sable sur la plage d'une enfance en manque d'Espagne. Les gens ne le savent pas. Les acheteurs de livres, les lecteurs. C'est un des rares lieux que le marché n'a pas encore réduit au silence. Une librairie. On ne vous demande pas vos papiers en rentrant. Pas votre QR code, pas le nombre de vaccins dans votre sang. Le désir reste le seul mot de passe. L'instinct de ciel. Il n'y a qu'une antidote à l'asphyxie de notre époque irrespirable. Le désir de la liberté. La liberté du désir. On n'entend plus la guitare. Juste les cadences matraquées du prêt-à-penser. Les boum-boum de la propagande à gogo. Un rendez-vous inachevé. Le rêveur garélien des années 70 a commencé avec les 80 mètres carrés de l'héritage Archi. Et ce soir de décembre 2012, où il chuchote ses mémoires dans une quasi-pénombre, notre capitaine Nemo fait les comptes. 1600 mètres carrés, 45 employés, 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, des centaines d'auteurs reçus en débat, plusieurs milliers même. Ce vaste vaisseau avec ses coursives, ses passerelles, ses escaliers, le patio dans la petite cour, le café sur la rue des Gestes, les fauteuils, les canapés, coins, recoins, rabicoins. La librairie est devenue notre maison. Et dans nos propres maisons, les livres de la librairie. J'habite chez mon libraire et mon libraire chez moi. Les technocrates sans âme qui font semblant de gouverner notre peuple réduit à des statistiques ont soudain découvert que c'était un commerce essentiel. La librairie. C'est une des grandes leçons de ce cauchemardesque confinement. Les gens ont un besoin vital du superflu. Des choses qui ne servent à rien, comme les livres ou la peinture. Je me suis réfugié dans mes bibliothèques. Pendant ce temps de nos vies volées, autant qu'envolées. Je me suis remémoré les grandes heures de notre collaboration, ces 10 bonnes années de partenariat entre l'école et la librairie, Super Ombre. Les écrivains auxquels je consacrais mon séminaire de seconde année étaient reçus en deux temps, un soir par les élèves de l'école, un autre par Yves Charnay, à la librairie. Qu'est-ce qui fait écrire les hommes ? Titre d'atelier pris au Michon de Rimbaud le fils. Ce dispositif fut, peut-être, pour l'ancien élève de l'INSA, une façon de retrouver ses billes. Une grande école d'ingénieurs, des écrivains, une librairie de renom. Je dois à Toto le meilleur de ce que j'aurais tant aimé enseigner. Album de photos, portraits de famille. Je me suis ressouvenu de mes plus beaux soirs de passeur dans cette ville, dans cette vie. Ce furent surtout des poètes. Michel Deguy, bien sûr, et plusieurs fois, Jacques Roubaud, Bernard Noël, Jacques Dupin, Jean-Claude Pinson, Jacques Ancé, Jean-Claude Pirotte, Serge Peille, Sabine Machère, Antoine Emaze, Valérie Rousseau. Il y eut aussi des prosateurs, Pascal Quignard, Pierre Bergougnoux, Olivier Rollin, Pierre Michon, Gilles Joannard, Jean-Jacques Salgon. Nous n'avons pas oublié des théoriciens et autres essayistes. Henri Méchonic, Michel Collot, Dominique Rabaté. Nous n'avons pas fermé nos portes aux choses de taureaux et à leurs picaresques chroniqueurs, Jacques Durand, Francis Marmande, Alain Moncouquiol, Simon Casas. Je n'aurais pas vécu depuis 1996 une passion sans en parler à Christian, sans la mettre d'une façon ou d'une autre au programme de sa librairie. J'ai bientôt fini ce portrait d'un inconnu. Tentative de vitrail pour un ami. On ne connaît jamais personne. Jamais vraiment. Il faut vivre avec cette marge d'incertitude. L'inconnu dans la fenêtre. Il faut faire confiance à son émotion, aux indices des affinités électives, aux traces des solidarités mystérieuses. L'amitié risque tout sur des signes comme les poèmes. Ce fut le cas. Notre camaraderie aussi subite que durable. Et ces tours et détours auront été l'un des bonheurs de ma vie. Un rendez-vous inachevé. Il y a si peu de permanence dans ce bordel baroque où se joue la comédie des figurants. Je fais plus que répondre à une commande du marathon des mots en écrivant ces pages à la diable quelques jours avant la deadline du 15 juin 2021. Je paye mes dettes. L'écriture comme une reconnaissance. Je remercie donc Christian Torel d'avoir mis un peu de sa rigueur dans ma vie à tous les vents. Je suis en effet presque totalement dépourvu de deux qualités qui le caractérisent en propre, la prudence et la mesure. Je remercie cet ami de m'avoir parfois empêché de faire encore plus le con et de l'avoir fait avec cette infatigable bienveillance. Notre lien est le fil rouge qui me relie à Toulouse, une ville où je vis et travaille sans l'habiter vraiment. Je lui dois, comme à quelques autres très rares proches du même acabit, d'être encore en vie. Funambule toujours sur son fil. Je vais laisser reposer mon motif dans la quasi-pénombre ce soir de décembre 2012, quelques jours avant Noël. Il ne parle plus, muet comme un personnage pensif dans une vieille gravure de Rembrandt. D'avoir tant évoqué ses souvenirs d'une vocation tardive lui a comme vidé la tête, le cœur aussi. Et il se demande qui il est. Jamais sûr d'être ce libraire reconnu de tous, sauf peut-être de lui-même. Il y a tous ces fantômes dans le petit bureau. Les vivants et les morts. Il y a ces gens du livre qui auront été comme une autre famille. Jérôme Lindon, bien sûr, Christian Bourgois, Antoine Gallimard, Paul Joseph Laurence, et puis un petit rictus douloureux en prononçant le nom du compagnon mort, Gérard Bobillier, Bob, forever. Les lunettes rondes ferment à clé la porte du petit bureau, pas lourd dans l'étroit escalier de bois. Je suis Christian, en silence. La librairie est toujours blindée de clients affairés des derniers achats de Noël. Nous marchons, sans rien dire. Nous regardons la Garonne, les lumières de l'autre rive dans la nuit bleue de décembre. nous longeons le quai de Tunis, tout près de chez Nougaro. On s'arrête encore, histoire de voir si le fleuve est encore fleuve. Nous sommes dans le mystère d'une connivence plus grande que nous, dans une sorte d'innocence sacrée. J'aurais bien aimé faire une promenade comme ça avec quelqu'un qui aurait été mon père. Christian pose sa main droite sur mon épaule gauche, demi-sourire sous les lunettes rondes. Il faut beaucoup aimer les livres, Yves. Ce serait la dernière image du film, générique de fin, musique de Ennio Morricone. On verrait un gros plan sur le visage flou de Jean Delon, de plus en plus flou de Philippe Gabin ou de Alain Noiret, avec les lumières en arrière-plan sur l'autre rive de la Garonne. Ce serait un film de Marguerite Verneuil, un film de Henri Tavernier. On passerait d'un fleuve à l'autre, promenade au bord de la Loire. Le film aurait un titre très simple, le libraire de Gambetta.